Vous écoutez
RMC.
Je te donne toutes mes différences.
Ah bah ça, il est différent.
Tous ces défauts qui sont autant de chance.
Arojo avec son pied gauche face à Safonov. S'il en sort un quatrième de suite, ce serait exceptionnel. Et il le sort.
C'est incroyable.
Safonov est un monstre. Il en a sorti 4. Et le PSG remporte la Coupe Intercontinentale.
Pour moi, maintenant, plus confortable. Je peux communiquer avec mon coéquipier. Je vais me sentir comme les parties de l'équipe.
Oh, Safonov, il s'est troué. Et le retour de Zabarni. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire, Safonov?
Le constat, on l'a tous les week-ends dans cette titularisation.
Safonov qui l'assure sur sa ligne. La tête derrière et le but de Nicolas Hyssen. Ah, Safonov, sur l'action, il est quand même pas exempt de tout reproche.
Ne parlez pas de gardien quand vous savez pas quoi dire.
Certains pays ont peut-être compris avant nous l'intérêt de deux critères qui sont importants, qui est l'intérêt morphologique et puis aussi le fait de considérer les gardiens comme des joueurs de chambre.
Un gardien, c'est comme un attaquant. Il y a des actions que tu peux rater.
Les gardiens ont tous mis du temps à s'adapter au PSG. Celui qui s'est adapté très vite, c'est Kylian Navas.
Ils ont tous apporté leur petite pièce à l'édifice.
Demain, quart de finale aller de Ligue des Champions, donc entre le PSG et Liverpool. Roten s'enflamme en direct du Parc des Princes. Hein, c'est Jérôme qui ouvre le stade pour cette grande soirée à vivre sur RMC. Paris en pleine confiance. 4 victoires d'affilée, le titre de Ligue 1 quasiment dans la poche. Et ce bémol, Jérôme, c'est le poste de gardien de but. Matvei Safonov, numéro 1 depuis le 28 janvier. Il a joué les 12 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Et il a été fautif face à Toulouse avec cette trajectoire mal évaluée. Hop, le ballon qui passe au-dessus de la tête. Ensuite, corner, faute de main, égalisation
là,
de Toulouse.
Il t'écoute pas, là. Si.
Est-ce qu'on peut en parler avec Arthur Perrault qui est dans ce studio? Salut Arthur.
Salut messieurs. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, c'est pas parce qu'il a fait une erreur que son statut est remis en cause au PSG.
Non, et pour revenir sur ces deux erreurs, même en détail, c'est ce faux jugement sur une sortie et un dégagement raté sur le corner qui a suivi. On ramenait le doute autour de sa présence dans le but parisien face à un Lucas Chevalier qui, on le rappelle, est toujours sur le banc de touche, appelé par Didier Deschamps malgré tout sur le dernier rassemblement des Bleus. Pas de quoi améliorer sa situation en club pour Luis Enrique qui préfère répondre avec humour vendredi soir après le match contre Toulouse.
J'étais très content de voir Lucas Chevalier avec la Nationale parce qu'il a été toujours là, avoir de la confiance dans un gardien comme Lucas Chevalier. Et je pense que c'est important et c'est une chose que j'aime. Si tu penses que je suis ici parce qu'il y a des personnes qui me peuvent conditionner, tu te rates clairement. Tu dis A, je dis V. Tu dis noir, je dis rouge. Porter le contraire, c'est une chose que j'aime et que c'est une chose que ont tous les Asturias.
Voilà, Matvei Safonov conserve donc son statut de gardien numéro 1 du PSG. Il devrait enchaîner demain soir une 14e titularisation dans les cages parisiennes. Mais de nouvelles erreurs dans ce choc décisif pourraient aussi installer davantage le doute sur sa saison à Paris.
C'est la une, c'est Roten se chauffe d'ailleurs à 19h ce soir. On parle du gardien du Paris Saint-Germain. Est-ce que Safonov est le dernier point faible de ce PSG? Jérôme, Ben Costil, Jean-Michel Larquet et Christophe Lolichon, consultant Canal+, ex-entraîneur des gardiens de Chelsea, qui est avec nous, Jérôme.
Salut Christophe.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Christophe. Merci d'être là, Christophe, pour nous donner ton ressenti sur le gardien du Paris Saint-Germain.
Toi, avoir un jugement sur le style.
Oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de Safonov, toi?
J'avais été un petit peu surpris par le recrutement du gardien à l'époque pour le PSG. Parce que c'est un bon gardien, comme on peut le dire souvent à propos d'un gardien. C'est même un très bon gardien au niveau européen, au niveau de Champions League. On va peut-être, je dis bien peut-être, atteindre des limites, mais il a des atouts. Il a aussi des choses où il doit performer un petit peu plus, comme le domaine aérien, comme son jeu au pied. Quand je dis jeu au pied, c'est pas simplement toucher le ballon avec les pieds, c'est sa lecture des situations. C'est toujours difficile de parler des gardiens quand on ne sait pas comment ils travaillent, ok? Donc il faut faire preuve de discernement. En tout cas, il a fait des matchs très intéressants. Je parlerai pas simplement des arrêts parce que si on parle par exemple du match à Chelsea où PSG gagne 3-0, il fait des arrêts, mais il se plante un petit peu quand même dans ses relances, qu'elles soient longues ou courtes. Et puis en effet, ça fait un petit peu le buzz là ce qui s'est passé avec le PSG contre Toulouse. Le match avec sa sélection nationale, il est un petit peu malheureux sur une tentative d'arrêt au sol. sur un ballon qui est très bien travaillé. Donc aujourd'hui, Safonov, il a pris de la confiance avec le PSG parce qu'il enchaîne les titularisations. Mais là, il y a un petit peu de moins bien. Maintenant, dans un, qu'on soit joueur de champ ou gardien, on peut peut-être pas être au top, enfin, être parfait à chaque situation, à chaque rencontre non plus.
Ouais, ça c'est sûr, on est d'accord. Alors après,
demander à Ben Costil aussi, c'est ouais, la même avis.
Benoît, oui, toi, est-ce que toi qui a assez défendu Lucas Chevalier aussi, Benoît, qu'est-ce que tu penses de Safonov, par exemple, de son dernier match contre Toulouse, parce que c'est celui-là qui nous intéresse aussi.
Mais je trouve que déjà sur la fin du geste, je sais pas si Christophe est d'accord, mais il veut capter le ballon. Je pense que son geste, il est pas juste. Ça aurait été plutôt de tenter la déviation. On voit qu'il se fait embarquer un peu vers l'avant. Son recul, la manière dont il recule, c'est pas très académique. Et il a pas réussi à envoyer une petite impulsion pied gauche, ouais, et de se mettre de trois quarts pour juste dévier, changer la trajectoire du ballon.
Ce but est maudit, Benoît. Je crois qu'il a fait une Michelangelo il y a quelques années.
Non, mais il est souvent à la limite.
Non, mais c'est vrai. En plus, c'était sur ce but là.
Il est quand même
à deux. J'étais au poteau, c'est pour ça que je veux dire ça.
Mais c'est que chaque fois qu'un gardien prend, c'est toujours.
C'est fou, c'est toujours une référence. Laissez-le tranquille. Vas-y, Ben.
Mais il a souvent été, comme je rejoins Christophe, c'est qu'il a souvent été limite dans son jeu au pied et dans les airs. Il est souvent, notamment sur les ballons qui le dépassent. Ça a souvent été limite. Malgré tout, sur l'ensemble des matchs qu'il a pu disputer avec le PSG, il a quand même montré de belles choses. Et aujourd'hui, je trouve que même si moi, je pense que le profil de Lucas Chevalier est supérieur à Safonov, je pense que ce serait compliqué aujourd'hui et presque injuste de remettre en question la hiérarchie à ce moment-là de la saison, et qu'il a fait de belles choses et qu'il mérite de continuer. C'est toujours difficile. Vous enlevez Safonov, vous mettez Lucas Chevalier, dans quelles conditions il est, Lucas Chevalier?
Ah bah ça c'est sûr.
C'est compliqué. Donc je pense qu'il a besoin et qu'il mérite aussi d'avoir la confiance de tout le monde pour poursuivre la saison.
Christophe, est-ce qu'il doit continuer jusqu'en fin de saison avec Safonov, Luis Enrique?
Si Safonov était amené à reproduire des petites fautes, des erreurs comme ces derniers temps, je pense que Luis Enrique n'hésitera peut-être pas à remettre Lucas Chevalier, qui j'espère est dans un état de confiance qui n'est pas trop altéré, et je pense que la sélection lui a fait beaucoup de bien. Mais rappelez-vous Luis Enrique quand il a permis à Lucas Chevalier d'enchaîner les matchs.
Oui.
J'adore Lucas Chevalier, je suis comme Ben, j'adore, c'est plein de talent. Excusez-moi, faut que j'aille ouvrir une porte. Mais c'est absolument plein de talent. Mais Lucas, à un moment donné, il a perdu des repères. Il a perdu des repères et il a été un petit peu moins performant que ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu à Lille, ce qu'il nous a montré à Lille. Et aujourd'hui, je vois pas Luis Enrique enlever Safonov pour le match contre Liverpool. Maintenant, si certaines contre-performances devaient perdurer, il va se poser la question. Et Luis Enrique n'est pas le type d'entraîneur qui hésitera à changer s'il doit changer.
Mais Christophe,
est-ce que c'est pas le mauvais moment de la saison? Bon, le sprint pour le championnat. Non seulement il est lancé, mais il est gagné.
Ouais.
Mais est-ce que ce ne serait pas le plus mauvais moment pour remettre en question un gardien par rapport à une performance délicate? Mais est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, Lucas Chevalier est dans les meilleures conditions pour prendre le relais? J'en doute un petit peu, parce que je pense que le petit Lucas, il est cabossé de parcours.
Arthur, on a des infos là-dessus d'ailleurs, sur l'état d'esprit de Chevalier, comment il travaille au quotidien à Paris.
Non, est-ce que la trêve lui a fait C'est dans la cage, l'état d'esprit.
Mais ça fait partie du.
L'intégration, et on en a beaucoup parlé ici avec Jérôme, l'intégration a mis plus de temps que prévu et aujourd'hui ça semble être réglé. Après, pour ce qui est de la confiance, son entourage le défend souvent en disant que depuis ça va mieux et que la main tendue de Didier Deschamps lui a fait le plus grand bien. Mais au Paris Saint-Germain, au quotidien, ça reste quand même assez compliqué. Voilà. Donc, un retour là, à ce moment-là de la saison, en effet, Jean-Michel, tu as raison, ça ne garantit pas une réussite à 100%.
Non, mais ça, on est d'accord. Après, et je poserai la question à Christophe dans un instant, mais pour rebondir ce que tu disais ou ce que tu disais aussi Jean-Michel sur c'est pas le moment et tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment pour réintégrer un gardien qui était titulaire au départ?
Non, mais celui-là est particulièrement chaud quand même.
Oui, mais d'accord, mais
tu es dans le sprint final. Oui, ça joue.
Mais Jérôme, le truc c'est que regarde, tu lui reproches quoi à Safonov? Tu le connais, mon point de vue. Je préfère Lucas Chevalier. Son profil, je vois beaucoup plus haut. Mais pour être objectif, tu veux lui reprocher quoi?
Moi, en fait, comme Christophe, ce que je veux dire, c'est que On retient la qualif contre Chelsea, il n'y a pas de problème. Le match à Chelsea, moi, il m'a pas forcément plu par rapport aux autres prestations qu'il avait fait. Ouais. Et le match contre Toulouse, je trouve que en effet, le but, il est pour lui. Juste avant, il fait une première erreur. Et tu te dis qu'en Ligue des Champions, tu prends un pion comme ça, ça peut arriver parce que des corners, tu vas en avoir plein contre cette équipe de Liverpool, certainement. Tu vas en concéder quelques-uns. Et que s'il te fait une connerie comme ça, en effet, parce que c'est pas son point fort, ça te mettra certainement plus en difficulté que ce but que t'as encaissé contre Toulouse.
Parce que le problème, c'est que tu as des incertitudes sur l'état des deux.
Oui, oui.
Et en fait, c'est là où, pour répondre à ta question, parce que la question, elle est, Safonov est-il le dernier point faible du PSG ? La question, oui, c'est ton point d'interrogation. C'est quasiment ton seul point d'interrogation sur le PSG de cette année.
Est-ce que vous le considérez
la question,
comme
se posera
un point
en fin de saison. Alors, qu'est-ce qu'ils
font ? Non, moi, je ne considère pas comme un point faible, mais c'est pour ça que c'était la question que je voulais poser à Christophe. Vas-y. Est-ce que le style peu académique de Safonov, parce que la vérité, c'est ça, quand tu es dans les tribunes, moi, je fais tous les matchs au parc, il a quand même un style atypique, tu vois. Est-ce que ça joue aussi dans la réflexion de Luis Enrique, tu penses, de le mettre ou pas?
Alors, quel que soit le style, si le gars il est efficace, on s'en fout finalement du style. Moi, si un mec me fait une volée qui à chaque fois arrive pile poil sur la poitrine de l'attaquant et que sa volée elle est pas dans le catalogue, je m'en moque complètement. Aujourd'hui, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ils vont affronter, on sait qu'en Ligue des Champions, et notamment contre les clubs anglais, le jeu aérien, les centres, chercher, les joueurs de Liverpool, ils vont chercher Safonov, si c'est lui qui joue, comme ils ont été chercher Donnarumma l'an passé.
Donnarumma, qui avait très bien répondu, Christophe.
Il avait bien répondu, mais surtout dans les 5-50. Au-delà, c'était compliqué pour Donnarumma. Et puis l'autre chose, c'est que si Lucas Chevalier arrive au PSG, c'est parce que Luis Enrique veut un gardien qui soit fluide dans son jeu au pied, dans sa lecture de jeu. Or, le problème, c'est que Safonov, il est, alors, surtout ce qui est relance courte, parce qu'il a la chance de voir des, enfin, il a la chance, c'est normal, c'est le modèle de jeu d'Enrique. Safonov, il a des solutions latérales, il peut jouer sur ses partenaires. Après, il a une drôle de façon de se replacer, je trouve que parfois, il ne s'extirpe pas trop facilement des espaces où l'adversaire peut le presser sur une passe en retrait. Mais parfois, on le sent un petit peu en urgence dans le jeu au pied. Donc, d'un côté, le domaine aérien n'est pas son point fort, et on l'a vu notamment contre le Chelsea où il s'est fait fortement remuer, sur des corners notamment. On l'a vu sur le corner concédé, enfin le deuxième ballon concédé contre Toulouse, où au-delà de l'appréciation de la trajectoire, si c'est un problème d'appui au départ, si vous regardez bien, malheureusement on n'a pas l'écran devant nous, mais il a les deux appuis sur la même ligne, et quand il veut amorcer son recul, il fait d'abord un pas vers l'avant avant de reculer. Ce qui occasionne son retard, et malheureusement il ne s'adapte pas par rapport à ce retard, comme l'a dit Benoît, pour jeter ce ballon au-delà de la barre. Donc il y a une double erreur d'appréciation. Donc le style, on s'en fout, c'est l'efficacité. Sur sa ligne, il est fort pour les ballons au sol, il va très très vite au sol, il efface bien ses jambes, ça va très bien à ce niveau-là. Mais il y a des registres où, en effet, on peut avoir un petit peu des doutes. Il faut simplement espérer que ce soit pour Lucas dans la gestion du fait qu'il soit passé numéro 2 ou Safonov dans certains domaines comme le jeu aérien et la lecture du jeu sur les relances courtes ou longues. Il faut simplement espérer, et je pense que ça doit être fait, mais je peux pas m'exprimer là-dessus, que c'est réalisé, travaillé, soutenu par l'entourage, par le staff et notamment les coachs gardiens.
Jean-Michel, Christophe, c'est très intéressant ce que tu dis, mais les doutes, et est-ce que lui-même n'a pas des doutes aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas à la limite de la concurrence entre deux gardiens de valeurs sensiblement égales?
Alors Safonov, il a qu'une envie, c'est de garder sa place. Est-ce que ça va lui mettre, il va affronter une double pression. Enfin bon, c'est un athlète de haut niveau. Il va affronter une double pression. La pression du résultat de la performance contre Liverpool et la pression de vouloir rester le numéro 1. Avant, dès que le coup de sifflet retentit à l'entame du match, il va oublier ça, il va se concentrer sur le jeu. Mais dans sa préparation de match, mentalement, il sait qu'il sort de deux rencontres, une avec son équipe nationale et une avec le PSG, où il n'est pas irréprochable. Donc il va vouloir montrer. Donc il faut surtout qu'il évite de surjouer et qu'il reste dans son style, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et en même temps, il veut garder sa place pour finir la saison. Donc c'est à lui de gérer ça, et je me répète, j'espère que tout est fait pour que Safonov soit mis dans les meilleures conditions. J'ai pas de doute sur l'attitude de Lucas Chevalier, qui est un super mec, qui est très bien entouré. autour de lui, il y a des bonnes personnes. Lucas a vachement évolué au niveau de la gestion du stress, des émotions, etc. Donc, c'est très constructif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui se passe pour Lucas Chevalier me semble, en tout cas, très constructif dans cette carrière internationale pour laquelle il est fait.
Alors, c'est intéressant, Christophe. Voilà. Juste, est-ce que vous conseilleriez à Lucas Chevalier d'aller voir ailleurs s'il ne rejoue pas d'ici la fin de saison l'été prochain? Ou est-ce qu'il faut qu'il s'accroche pour devenir le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain?
Alors maintenant, je vais essayer de m'imaginer dans la peau du mec qui s'occupe des gardiens du PSG.
Benoît aussi.
Ce sont des Benoît, je me souviens plus, Benoît, si tu as connu des situations similaires où il y avait une concurrence qui était très forte. Le rôle des coachs gardiens, alors il y a j'avais oublié Benoît.
Je rigole Christophe.
Oui, j'ai fait un JR 25.
Il savait que c'était une boutade. Oui.
Non, c'est la vérité, Benoît, t'as raison.
Il y a le rôle de Luis Enrique qui a un discours, je trouve, très neutre et très positif vis-à-vis de ses deux, voire de ses trois gardiens. Et puis il y a après ce qui doit être fait au quotidien par le staff spécialiste, enfin spécifique gardien. Lucas Chevalier, il a signé un contrat de 5 ans, il me semble.
Ouais.
S'il fallait partir tout de suite après une saison qu'il ne faut pas considérer comme un échec, moi je considère que c'est une saison d'apprentissage au très haut niveau. Parce que le PSG, c'est le très très haut niveau. Et être gardien dans une équipe de très très haut niveau, ben, c'est pas facile.
Donc il faut s'accrocher alors. Il faut s'accrocher.
Je pense qu'il faut s'accrocher, puis j'espère qu'il y a surtout un dialogue honnête, transparent vis-à-vis des deux gardiens. Et puis la différence de qualité. Je suis assez d'accord avec Ben. Je pense que le potentiel de Lucas Chevalier est très très important pour s'exprimer au plus haut niveau.
Benoît, il doit s'accrocher, Chevalier. Il doit rester la saison prochaine.
Ah oui, mais il faut qu'il s'accroche. Et je pense, sans être dans la tête de Luis Enrique, que Luis Enrique, dans sa tête, il peut se dire aussi l'année prochaine, je sais que je vais repartir avec Lucas Chevalier. Et que cette saison est une saison un peu d'adaptation, plus longue que prévu. Mais il doit le voir au quotidien. À un moment donné, quand il y a un gardien de talent, même s'il est dans une mauvaise phase, vous arrivez à voir que ce gardien, il a quelque chose, qu'il a du talent. Donc je pense qu'une personne comme Luis Enrique est capable de raisonner de cette manière, et le staff du PSG aussi. Maintenant, si c'est effectivement, c'est repartir la saison prochaine avec un autre gardien, on chamboule encore la hiérarchie, peut-être qu'il se fera se poser la question d'aller chercher du temps de jeu dans un autre club. Et à ce moment-là, Lucas, je suis sûr que tôt ou tard, il réussira au très haut niveau. Mais à l'heure actuelle, je fais tout pour m'imposer au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est un challenge qui est encore plus excitant, justement.
Ah de toute façon, il est venu pour ça, et c'est pour ça qu'il a signé 5 ans. Alors après, je pense qu'il
jouer direct,
s'imaginait pas vivre une première année comme ça, mais là où je te rejoins, Christophe, aussi, c'est l'apprentissage. En effet, des fois, t'es pas obligé de t'adapter en 2 mois, en 3 mois, ou tout de suite parce que t'es français. D'ailleurs, il y a beaucoup de pression ici pour un gardien français. De toute façon, on l'a vu, toute génération confondue au Paris Saint-Germain, c'est jamais facile, dans tous les cas. Il faut peut-être le laisser le temps. Et moi, je suis d'accord avec toi, Benoît, aussi. Je pense que dans la tête de Luis Enrique, aujourd'hui, il a fait un choix. Pour l'instant, ce choix-là n'est pas décevant parce qu'ils arrivent à aligner des matchs. Ils sont encore une fois en quart de finale et bien placés pour se faire une demi-finale avec Safonov dans les buts. Et que l'année prochaine, les cartes sont certainement redistribuées avec de nouveau un Lucas Chevalier qui reprendra sa place. Du moins, moi, je le vois comme ça. Après, c'est pour ça qu'Arthur, c'était intéressant de voir comment il s'entraînait, comment il s'était adapté, parce qu'il y a eu une période, et on en a parlé tous les deux, Arthur, il y a quelques mois où c'est vrai que c'était aussi moyen dans son attitude, dans ses trucs. Là, je pense en effet que c'est beaucoup mieux.
Bien sûr.
Donc ça va lui servir certainement. Et Luis Enrique, il le voit, ça.
Ouais.
Christophe, j'ai une question pour vous. C'est qui le meilleur gardien du monde actuellement?
Ça, c'est une sacrée bonne question, ça.
Oui.
C'est vrai, il y a pas un qui se dégage particulièrement.
Non, mais c'est toujours difficile, parce que fut un temps où on avait des monstres. On avait des monstres. Je pense à Manuel Neuer, je pense à Petr Cech, forcément. Thibaut Courtois est un monstre et pourrait être un monstre pour plusieurs années s'il le voulait, j'en suis pas sûr. Mika était un modèle d'intelligence dans le jeu. Non, mais j'ai l'impression que tu veux te taper un peu la tête. Mais Mika, tu sais, Jérôme, t'as joué avec Mika.
Mais je plaisante.
Oh là, oui, il a joué avec.
C'est pour ça que j'en parle. J'ai joué 2-3 fois avec Mika. À Paris et en équipe de France. En équipe de France,
Aujourd'hui, je pense que Thibaut Courtois
a toutes les qualités pour être au sommet de la montagne, ouais. mais qu'il joue dans un canapé. Voilà.
Ok, c'est-à-dire qu'il s'est installé dans un confort. Et plus les
ouais, je pense, mais c'est Thibaut. Mais il est monstrueux, Thibaut Courtois. Ah, alors après, il est absolument monstrueux. Après, je pense que Mac Maignan est quand même dans le haut du tableau parce qu'il est bon dans plein de domaines. Il a très peu de points faibles, Mac Maignan. C'est aussi à ça qu'on voit les grands gardiens. C'est qu'ils ont quasiment pas de points faibles. On essaye de les chercher et c'est pas facile. Donc on va pas les chercher du côté de l'Angleterre parce qu'il n'y en a pas.
J'aime David Raya, Christophe, non?
Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais conclure par ça.
Ah, pardon.
David Raya, moi qui adore les géants, David Raya fait 1m83. Statistiquement, c'est lui qui prend le plus de ballons aériens en championnat, en première ligue. Il est intelligent. Il est techniquement, quasi parfait dans tous ses gestes. Il a une lecture exceptionnelle des situations. Aujourd'hui, je considère Raya comme le plus complet de tous. Je pourrais toujours vous dire qu'il lui manque une petite dizaine de centimètres, mais je ne vais pas le dire parce qu'il est bon avec sa taille. Il est bon avec sa taille et comme quoi, vaut mieux se focaliser sur un gardien moins grand, mais qui a une super intelligence de jeu, qui est au pied, a une fluidité dans son rapport avec le ballon et qui vous résout des problèmes avant que le problème arrive.
Merci Christophe d'être venu dans Antenne sans flamme.
Salut Christophe.
Un plaisir. À bientôt.
Bonne soirée. Au revoir.
À bientôt.
Salut. À bientôt.
Vous en voulez encore? Foncez, écoutez tout de suite l'intégrale de Rotten sans flamme.